Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on est en train de faire une petite étude sur un guide de prière. Pour ceux qui ne savent pas, un guide de prière, pourquoi qu'on a besoin d'un guide de prière? C'est parce que la Bible nous enseigne qu'il y a deux manières de prier. Il y a prié par l'esprit, puis il y a prié avec l'intelligence. Puis Paul le dit, je prierai avec l'esprit, puis je prierai aussi avec l'intelligence. Prier par l'esprit, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit, puis là, le Saint-Esprit te pousse à prier, puis te montre des personnes pour prier, puis même tu peux même prier en langue. Ça, c'est une dimension de la prière. Mais aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est le côté prier avec l'intelligence. L'intelligence, c'est qu'on raisonne, on pense au sujet qu'on veut prier. On lit la Bible. On regarde les passages où ce que la Bible nous demande de prier, puis je crois que c'est intelligent de le faire, de prier pour les sujets que la Bible nous dit de prier, parce que c'est important que ça soit dans notre vie. Puis il y a plein de sujets, on est en train de passer à travers du guide. Quand on va avoir fini le guide, je vais vous remettre des feuilles avec tous les sujets écrits, puis ça va être à vous à rajouter des noms de personnes pour les sujets, puis ça va devenir votre guide pour prier avec votre intelligence pour les gens que vous connaissez ou pour les situations qu'on doit prier. Le sujet où on est rendu présentement au niveau du guide de prière, c'est au niveau pour notre croissance spirituelle. Jésus nous demande, Dieu, pas juste Jésus, tout le long de la Bible, il y a des versets qui nous parlent qu'il faut faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi. Puis là, il nous nomme des choses qu'on doit ajouter. Mais ça nous dit aussi de prier pour y arriver. Dans toutes sortes de passages, on retrouve des sujets que Dieu nous demande de prier pour notre croissance spirituelle. Ce soir, le sujet qu'on va regarder ensemble, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Amen », puis il y en a d'autres qui vont dire « Ouch ». Parce que c'est un sujet qu'on n'aime pas entendre. Parce que ça commence à faire un sujet pour notre croissance spirituelle, mais qui fait un peu des entailles dans notre arbre dans lequel que nous sommes, quand la Bible elle nous dit qu'on est des branches comme greffées au cep, puis on a besoin d'être émondés. Émondés, c'est comme un plant de tomate, t'enlèves les feuilles inutiles pour que la sève aille uniquement dans les branches porteuses de fruits, pour que les fruits deviennent bons, juteux. Puis Dieu veut que nos vies soient pleines de fruits, mais on a besoin de passer par un travail que le Seigneur veut faire dans nos vies pour changer notre être. Ce soir, le sujet qu'on regarde, c'est demander de l'aide à Dieu pour mourir à soi-même. On parle pas de faire un pacte de suicide, là, ça n'a pas rapport. On n'est pas dans une secte. Mais la Bible, elle nous en parle qu'il faut mourir à soi-même. Puis ça, on va développer un peu ce sujet-là, puis on va voir qu'on a besoin de l'aide du Seigneur pour y arriver. Faut prier pour y arriver. Nous pouvons dire que faire mourir les actions du corps, c'est en partie la sanctification. Puis ça, c'est vrai, on l'a vu qu'il fallait prier aussi pour être sanctifié. Être sanctifié, ça veut dire être saint, mais aussi pour marcher de plus en plus d'une manière sainte. Dieu nous appelle à cela. Mais mourir à soi-même, c'est encore un peu plus loin que la sanctification. Vous allez comprendre pourquoi. Mais en plus, c'est aussi d'apprendre à abandonner, de suivre notre volonté, nos buts, nos désirs personnels, pour suivre la volonté de Dieu. Mourir à soi-même, c'est un synonyme de renoncement à soi-même. Puis ça, on va voir qu'il y a des versets qui parlent dans ce sens-là. Puis un chrétien, s'il veut être encore plus producteur de fruits, il doit passer par là. Puis je dirais même plus, pas juste pour porter du fruit, mais pour que toute ta vie soit d'une agréable odeur. Parce que ça se peut que tu sois chrétien, puis que tu aies encore des parties qui sentent pas bon dans ta vie. Puis le Seigneur veut travailler ça. Jésus n'a-t-il point demandé que pour le suivre, dès le départ, nous devrions mourir à soi-même? Dans Matthieu 16, les versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Dans ce passage-là, on voit que, en partant, Jésus nous demande, quand on accepte le Seigneur, il faut que tu sois prêt à renoncer à toi-même. Souvent, on n'en parle pas. On n'en parle pas souvent quand quelqu'un veut se convertir. Faut que tu sois prêt à renoncer à toi-même, là. Suivre Jésus, c'est un engagement. Si tu as l'intention de continuer à faire tout ce que tu vivais avant, bien, Jésus dit, t'es pas propre, le royaume de Dieu. Tu regardes encore en arrière, tu veux être comme retourné en Égypte. Non, faut que tu sois prêt à renoncer à toi-même si tu veux trouver la vraie vie. La vraie vie est en Jésus, mais il y a à quelque part, je dis pas que le gars, avant de se convertir, il va avoir tout abandonné, mais il faut que tu sois prêt au changement. Il faut que tu sois prêt au changement. Il faut que tout le monde, chacun de nous, soyons prêts au changement. Puis ça commence pas aujourd'hui, ça, là. Ça a commencé au jour où vous êtes convertis. Il faut que vous soyez prêts au changement. Mourir à soi-même, ça veut dire que là, le Seigneur va te montrer, je voudrais que tu changes telle affaire dans ta vie. Il va te montrer des passages où tu vas entendre quelqu'un parler, puis à toutes les fois qu'il y a souvent une idée qui revient. Voyons, comment ça fait que tout le monde m'achale avec ça? Là, si tu t'examines, ah oui, c'est vrai, j'ai ça. C'est Dieu qui est en train de te parler. Il veut mettre le doigt sur quelque chose dans ta vie. Puis si tu n'es pas prêt à changer, si t'es pas prêt à renoncer à toi-même, tu n'auras pas de croissance spirituelle. Tu vas rester au même niveau. Tu vas tourner en rond. Il va continuer à te le dire. Il faut que tu changes ça, là. Faut que tu me remettes ça. Parce qu'on va voir un peu plus loin que le changement est possible que si on l'y remet à Dieu. Si on y confesse. Si on se dit, ah, oh, ben, moi, je l'ai pas, cette affaire-là, puis on se cache. J'ai pas ça, moi. Mais tu vas rester, tu cherches à rester dans les ténèbres, là, en noirceur, là, puis te cacher. Tu ne changeras pas. Il faut que tu sois prêt à dire, Seigneur, c'est vrai. Je te demande pardon, puis je te le remets. Mais j'ai de la misère. Moi, je suis pas capable d'arrêter ça, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Puis c'est en plein ça qu'on veut comprendre aujourd'hui. Dieu veut nous amener à ce qu'on lui fasse confiance, mais il faut qu'on soit prêt à mourir à soi-même. Quand tu veux suivre Jésus, il faut que tu sois prêt à mourir à toi-même, te charger de ta croix, parce qu'on a chacune croix qui est faite pour nous-mêmes personnels. Moi, j'ai un appel. Chacun de vous, vous avez un appel selon les dons et les talents qu'il vous a remis. Puis Dieu va vous aider à grandir, mais vous portez pas ma croix, puis moi, je porte pas la vôtre. Chacun porte sa croix. Mais pour porter ta croix, faut que tu te décharges de d'autres choses, parce que là, il va te dire, ça, là, ça devient trop lourd, là. Si tu traînes ça plus ta croix, tu seras pas capable d'avancer. Fait que tu sois prêt à renoncer à ce qu'il va te montrer, puis il va te donner sa croix, puis tu vas commencer à porter la gloire de Dieu dans ta vie. Celui qui veut sauver sa vie. Êtes-vous de ceux qui veulent sauver leur vie? Moi, pour ma part, j'ai accepté Jésus pas parce que Jésus était pour me bénir. J'ai pas accepté Jésus parce que Jésus va répondre à mes prières. Non. La première, moi je trouve, c'est la plus bonne raison pourquoi que j'ai accepté Jésus. Je suis parce que je veux être sauvé. Je voulais que mes péchés soient pardonnés, puis je veux rentrer au ciel. C'est pour ça que je veux suivre Jésus. On tombe réconcilié avec le Père, puis notre nom s'inscrit dans le livre de vie. J'ai cru au Seigneur pour être sauvé. Puis ça, c'est la vraie raison, la première raison pourquoi qu'on suit Jésus. Pas parce qu'il va vous exaucer vos prières, pas parce que votre vie va être meilleure, ou pas parce que vous allez être béni, vous allez avoir l'abondance. C'est pas une bonne raison. Fait que il nous dit dans ce passage-là, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Moi, je voulais sauver ma vie. Je voulais qu'elle soit sauvée, je vais être sauvée. Mais là, il me demande de la perdre. Mais il dit, celui qui la perdra, à cause de moi, la trouvera. Puis c'est ça qui est le point. Quand tu commences à abandonner tes idées, tes objectifs, tes pensées, tes buts, là, tu commences à demander au Seigneur, « Seigneur, t'as-tu un plan pour moi? » Parce que moi, je m'en ai fait un plan. Puis pour moi, il est bien correct. Mais lui, il y a une différence entre mon plan et le plan du Seigneur. Savez-vous qu'on est sauvé par grâce? C'est pas par les œuvres. Par grâce, mais pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Donc, Dieu a un plan pour vos vies. Il a mis des œuvres, il a déjà pensé à tout un paquet d'œuvres que vous allez commencer à vivre, là, puis que vous allez faire parce que vous êtes chrétien. Mais là, il dit dans ce passage-là, la journée que tu vas commencer à comprendre, il faut que tu arrêtes de vivre dans tes idées, puis que tu t'en remettes à suivre les celles du Seigneur, c'est là que tu vas trouver ta vie. Tu vas trouver ta vraie raison de vivre. La raison de vivre que Dieu a préparée quand tu te mets au monde. C'est de vivre avec lui dans sa volonté. C'est ça la vraie raison de vivre. Puis pour y arriver, faut que tu sois prêt à renoncer à tes idées. Puis à lui demander au Seigneur, c'est quoi que tu veux pour moi, Seigneur? Ouvre-moi des portes, Seigneur. Je veux te servir, je veux vivre pour toi. Puis là, il va te dire, commence par lâcher ça. Ah oui, OK. Puis là, tu lui remets entre ses mains, tu lui demandes pardon, puis là, tu lui demandes de t'aider. Puis les choses tombent une par une derrière l'autre. Je sais pas si vous le savez, quand je me suis converti, je suis pas tombé parfait, moi. Puis là, ça fait 35 ans dépassés que je suis sauvé, je suis pas encore parfait. Donc, il a fait de l'œuvre en moi, puis il en reste encore à faire. Puis je pense à la même chose pour chacun de vous. Fait que si le Seigneur, si vous savez que vous avez encore des choses à être changées dans votre vie, c'est parce que c'est le Seigneur qui vous le montre. C'est pas moi. J'en parle un peu, mais le Seigneur vous montre que votre vie, il y a des choses qui doivent être enlevées. Puis ça, il faut apprendre à y remettre. Faut pas étirer ça. Plus qu'on étire ça, plus ça prend du temps pour rentrer dans les œuvres qu'il prépare. Oui, tu peux faire des petits services, mais pourquoi qu'on se contenterait des petits services quand il y a peut-être un plan de faire de toi un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste, un missionnaire, un gars qui va ouvrir des églises partout, un gars qui prêche à radio. Il peut faire de toi n'importe quoi. Si tu y remets ta vie. Mais si tu gardes ta vie, tu vas la perdre. Si tu donnes ta vie, tu vas la retrouver pour la vie éternelle. La Bible nous demande de faire mourir les actions et les désirs de notre chair. Il y a un verset dans Éphésiens qui dit qu'on marchait dans les désirs de notre chair et de nos pensées. Notre corps a des désirs, nos pensées, on a des désirs. Puis avant de connaître le Seigneur, on était tous pareils, selon la nature, des enfants de colère. Puis on marchait selon le train de ce monde, dans nos désirs, dans nos pensées. Puis le Seigneur, là, il veut changer ça. Il veut qu'on marche dans ses désirs puis dans ses pensées. Puis c'est pour ça qu'il faut, même des fois, il nous demande de couper des affaires, puis c'est des affaires qui sont pas réellement des péchés. C'est juste des choses qui te font perdre du temps, peut-être. C'est pas tout. Il commence par enlever le péché, mais après ça, il va te dire, lâche telle affaire, tu vas avoir plus de temps pour lire la Bible, ou pour prier, ou pour faire d'autres choses, ou aller évangéliser. Il va te montrer des affaires si tu veux avancer. Puis là, on se regarde dans un miroir, et non pas notre prochain. Dans Romains 8, 13 et 14, ça dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça parle à des chrétiens, là, des gens ressuscités, des vivants qui marchent en communion avec Dieu. Parce qu'il nous le dit, que ceux qui commettent de telles choses, de marcher selon la chair dans le monde, dans le même passage, ils n'hériteront point du royaume de Dieu. Faut faire attention, on n'en parle pas souvent, c'est écrit noir sur blanc dans ce passage-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est là. Et si tu vis selon la chair quand tu es chrétien, tu vas mourir, spirituellement parlant. Tu peux pas te permettre de batauger dans le péché puis vouloir rester là-dedans. Fallait que tu sois prêt à renoncer à toi-même avant d'accepter Jésus. Si tu continues là-dedans, tu vas te perdre. Mais il nous dit, mais si par l'Esprit Le Saint-Esprit, celui que vous avez reçu à votre conversion, il veut faire le changement dans votre vie. Il dit, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous a été donné dans le but de faire mourir les actions de notre corps. Pas juste pour nous guider. Il veut faire mourir. Ça veut dire que le Saint-Esprit a la puissance d'atténuer tes péchés puis de les enlever. Si tu le laisses faire, c'est Dieu. Il a tout pouvoir. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Quand quelqu'un ne croit pas que le Saint-Esprit est Dieu, c'est lui qui est entré en nous. Puis là, le Seigneur, il veut qu'on comprenne une vérité. Si je passe mon temps à écouter mon corps, à me livrer à ce que mon corps aime de péché, de débauche, je vais mourir spirituellement. Si le contraire, je dis au Seigneur, « Seigneur, ton esprit est en moi. Je te demande pardon pour telle et telle affaire. Tu peux en nommer une, tu peux en nommer deux, tu peux en nommer quatre. Nomme-les toutes, les péchés que tu vis. » Puis, demande-y au Seigneur de venir faire mourir ça. C'est ce que ça dit dans ce verset-là. « Si par l'esprit vous faites mourir les actions de votre corps, vous vivrez. » Fait que si tu veux être vivifié par le Saint-Esprit, par le Seigneur, si tu veux que Dieu produise en toi le feu, tu sois en feu pour le Seigneur, c'est ça être la voie et la vie de l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit, puis être comme Paul, puis là tu t'ordonnes dans le nom de Jésus, un démon de sortir, il va sortir parce que tu es animé de la puissance de Dieu. Si t'es dans la chair, puis tu vis dans le péché, puis tu penses de vivre la puissance de Dieu, tu ne vivras pas la puissance de Dieu. Puis si tu n'arrêtes pas, il va s'en aller. Parce que Dieu ne rit pas. Ça a coûté cher le péché, il a haine pour le péché, puis il peut pas se prendre un plaisir dans le péché. Ça l'attriste, ça commence par attrister, puis ça le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Puis ça l'éteint aussi, ça dit, n'éteignez pas l'Esprit. Puis ça dit aussi que Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Parce que il y a une limite à la méchanceté qu'une personne peut faire. Puis il faut pas s'arranger pour étirer la patience du Seigneur. C'est vrai qu'on est sous la grâce, Dieu est patient, mais on a tout à gagner de se livrer à l'Esprit de Dieu, puis de dire, fais mourir ces affaires-là en moi. Puis il va le faire. Puis en passant, c'est la seule manière d'y arriver, parce qu'on a la nature de péché, puis les racines dans l'iniquité, c'est naturel dans l'être humain. Puis le seul moyen de s'en débarrasser, c'est à cause du sang de Jésus qu'on peut être pardonné, puis c'est à cause du Saint-Esprit qu'on peut faire mourir les actions du corps. Amen. Le processus de délivrance dans notre vie nécessite l'action du Saint-Esprit pour faire mourir les actions de notre corps. L'être humain n'a pas en lui-même la force pour sortir de sa mauvaise nature. Ça dit dans Matthieu 5:36, la fin du verset, « Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Tu penses pas que tu vas y arriver par tes propres capacités. Parce qu'il y en a que ça arrive malheureusement, ils vivent leur vie chrétienne par leur propre capacité. Puis ils pensent que ça plaît à Dieu. Mais ça le dit dans la Bible, ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Il faut que tu arrives au point que la seule chose qui plaît à Dieu, c'est quand tu es dans le Saint-Esprit, puis tu es animé de l'Esprit, puis tu cherches à en avoir plus du Saint-Esprit, puis tu cherches à être dedans. C'est là que tu plais à Dieu. C'est ça marcher par la foi, la différence entre marcher selon la chair. Voyez-vous? Puis on n'a pas la capacité dans notre chair de nous libérer nous-mêmes de nos péchés. La Bible nous enseigne de nous en remettre au Saint-Esprit pour faire mourir les actions de notre corps. Mais il y a aussi un côté de ce travail qui provient de nos décisions. Le Saint-Esprit ne force pas personne. Il ne veut pas faire de nous des robots. Il nous a toujours laissé la liberté de penser, la liberté d'obéir, même après que tu sois chrétien. Puis c'est ça qui fait une différence pour ta croissance, pour la vitesse de ta croissance. Ça va dépendre de ta vitesse d'obéissance. Parce que plus que tu as de la résistance, mais plus tu vas faire du surplace. Puis peut-être rétrograder. Dans Colossiens 3:5, écoutez bien ce verset-là. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. À qui ça s'adresse, ce verset-là? Aux Colossiens. Oui, c'est aux Colossiens. Mais si je le lis aujourd'hui, à qui ça s'adresse? À nous, aux lecteurs. C'est à nous, là. Faites donc mourir. Ça veut dire, c'est moi qui dois faire mourir. C'est moi qui dois prendre une décision que tel et tel péché doit mourir dans ma vie. Le Saint-Esprit peut me le montrer, mais il attend que j'y dise, prends-les. Sinon, il nous fait toutes de nous des robots, il nous enlève notre volonté. Oui, maître, puis on s'en va, puis on sert, puis on n'a plus aucune pensée, plus de... Tu vas avoir des récompenses, là, mais il faut que tu marches pour le Seigneur. Voyez-vous, c'est de même. C'est lui qui nous dit à nous de faire mourir les membres qui sont sur la terre, puis ça parle d'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est des choses qu'il faut que ça s'enlève. Mais il faut que tu décides que ça s'enlève. Puis il faut que tu te décides de le confesser au Seigneur, puis d'y remettre au Seigneur. Puis là, le Seigneur va le faire. Ça va être son travail, c'est pas le tien. Lui est fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voyez-vous? On veut être purifié, on veut être rendu pur. Une grande vertu remarquable chez les chrétiens authentiques, c'est de les voir marcher par la foi et de prendre des décisions qui les amènent plus proches du Seigneur. C'est super beau de voir des gens qui se consacrent au Seigneur, qui acceptent Jésus. Puis c'est encore aussi beau de les voir X temps plus tard, encore en train de prendre des décisions, puis de se sanctifier, puis de se rapprocher encore plus du Seigneur. C'est des chrétiens authentiques. Parce que c'est pas tout le monde qui sont comme ça, puis ça, il faut se le dire. Il y a des gens, c'est pas des critiques que je lance, mais je veux juste faire prendre des... conscience des clichés, là, des situations. Il y a des gens qui sont là à l'église, ils écoutent le message, puis ils sont des auditeurs oublieux que la Bible a dit. Ils sont regardant le miroir, mais ils se redétournent, puis ils ont aussitôt oublié comment ce qu'ils étaient. Ils s'en retournent, puis ils continuent à vivre comme qu'ils étaient, puis ils ont même pas fait le lien un plus dans les messages qu'ils entendent, puis essayer de penser, c'est-tu pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer? Puis qu'est-ce que je dois comprendre? Puis là, essayer de trouver c'est quoi l'affaire, puis là, après ça, quand tu réalises l'affaire, tu commences à travailler. Moi, je crois là que tous les chrétiens devraient toujours, dans leur vie, être en train de combattre contre quelque chose. Si tu n'as pas cette attitude-là de dire, là, j'ai une affaire qui me fatigue, souvent, je pogne les nerfs, puis je crie, ou je me mets en colère, ou j'ai de l'amertume, ou souvent, j'ai d'autres choses. Il y a des habitudes qui sont dans notre nature, selon notre nature, qui peuvent revenir souvent. Puis si on veut que ça change, faut prendre en main ce point-là, là, ou si tu as des regards de convoitise. Mais faut que tu le prennes en main, ce problème-là, puis tu le dises, Seigneur, j'ai tel problème. Puis là, tu commences à combattre pour que ça meure, pour que ça arrête, pour que le Seigneur l'enlève. Tu commences par lui confesser, lui remettre dans ses mains, demander au Seigneur qu'il vienne enlever ça. Puis c'est de même la vie chrétienne. Puis des fois, un combat pour une affaire là, peut durer 20 ans. Je veux pas vous décourager, là, mais c'est quand tu es en train de combattre que tu plais à Dieu. C'est quand tu arrêtes de combattre que tu vas tomber et tu vas te livrer dans ton péché. Voyez-vous? Il faut toujours être en train de combattre. Puis quand le Seigneur l'enlève, tu n'as plus de combat, tu n'as même pas la tentation, mais tu fais attention pour ne pas retomber dans un autre piège pour te faire tomber. Parce que le diable va essayer de te retenter. Mais tu as un combat perpétuel contre le monde, le diable, ta chair. Quand est-ce qu'on va arrêter de combattre? Quand on va être rendu l'autre bord, qu'on aura notre corps glorifié. En attendant, on a notre corps de péché, puis lui est toujours attiré. Puis même si c'est mort aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne ressuscitera pas demain. Voyez-vous? C'est un combat perpétuel. Puis, quand je vous parlais qu'une vertu remarquable chez les chrétiens authentiques, là, c'est de vouloir marcher par la foi puis de prendre des décisions qui les amènent plus proches du Seigneur. C'est ça de marcher par la foi. C'est de vouloir se sanctifier, c'est de marcher par la foi. Croire que Dieu veut que ça change. Puis dans Galates 5, 24, ça nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Fait que, quand tu es concentré sur le Seigneur, tu décides, Daniel Poulain, chercher les puits, le vieux Daniel Poulain, il est crucifié avec Christ. Maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça que Paul disait, c'est ça que ça veut dire. Puis on est tous appelés à être comme ça, à réaliser que le vieux, mon vieux moi, là, il est sur la croix, puis il est enterré, enseveli avec Jésus. Maintenant, je marche en nouveauté de vie dans le Saint-Esprit. C'est par la foi qu'un chrétien prie pour être délivré. C'est un pas de foi. Parce que tu crois en ton Dieu Tout-Puissant, hein? Tu crois au Dieu Tout-Puissant qui peut le faire. Puis c'est par la foi que tu vas lui demander de te délivrer. Ouais. Tu crois que Dieu est capable de le faire. Puis mon juste vivra par la foi. On marche dans les pas d'Abraham, mais marcher par la foi aujourd'hui, quand tu es chrétien, c'est de marcher dans sanctification. Tu fais confiance que Dieu va t'aider. Fait que tu vas prier, comme ça dit dans Matthieu 6, 13, « Délivre-nous du mal. » Délivre-nous du malin, délivre-nous du mal. Tu vas lui demander de l'aide parce que tu veux sortir de là. Tu veux pas rester là. Mais c'est par la foi qu'un chrétien résiste aussi aux tentations puis aux attaques du diable. Parce qu'une fois que Dieu t'en délivre, le diable va venir te tenter. Puis là, ça nous dit dans Jacques 4:7, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable puis il fuira loin de vous. » Fait que tu veux faire mourir tes désirs de ta chair, là, mais là, tu pries, puis le Seigneur t'en délivre du mal, du malin. Mais, prends garde, puis quand ça arrive, une tentation, résiste. Excusez, dis non, refuse, rejette, prends autorité dans le nom de Jésus, combat, puis que même, c'est pas juste pour vous, là, tous les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les missionnaires, tout le monde combat contre les péchés. Il n'y en a pas un qui ne combat pas. C'est pas à cause que tu dis, oh, ça, c'est un saint homme. Mais s'il est saint, c'est parce qu'il est en train de combattre, parce qu'il serait aussi pourri que tout le monde. Voyez-vous? Saint dans le sens, t'es sanctifié par Jésus, oui, mais je parle, il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire, faut toujours que tu marches dans la poursuite de devenir de plus en plus saint. Fait que c'est ça d'arriver à mourir à toi-même. Puis ça, faut prier pour cela. Faut prier pour cela. Faut que tu sois toujours en train de combattre toute ta vie. Nous avons, c'est le dernier verset, nous avons à résister, mais nous avons aussi la promesse que Dieu nous aidera et nous équipera pour résister. Dans Luc 21, 34 à 36, ça nous dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. » Puis on le sait que les excès du manger et du boire, ça fait partie des œuvres de la chair. Les excès. Si tu marches là-dedans, là, Jésus dit tu vas devenir appesanti. Quand on parle d'appesanti, c'est que, oh, là, tu marches, tu as le ventre bien plein, puis tu n'as plus de goût de vouloir rien faire pour le Seigneur. Mais ça, c'est un cliché, là, c'est spirituel. Tu deviens paresseux spirituellement parce que tu es rendu trop lourd spirituellement. T'es appesanti, t'es écrasé, t'es abattu parce que ta chair a tes repos. Ta chair t'aide pas. Ses plaisirs, puis ses désirs, puis ses convoitises, puis ses excès, ça te rend plus faible spirituellement. Ça t'affaiblit parce que ça attriste le Saint-Esprit. Ça veut dire, si tu recherches les choses de la chair, le Saint-Esprit, mais la puissance de Dieu va être moins à l'œuvre dans ta vie. Si tu recherches les choses de l'Esprit, c'est ta chair qui va devenir plus faible, puis tu vas avoir la victoire dans ta vie. Jésus dit, laissez pas vos cœurs s'appesantir par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. car il viendra comme un filet sur tous les habitants sur la face de la terre. Veillez donc, c'est le verset clé que je veux qu'on retienne, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Ton corps a des excès du manger, du boire, peuvent t'endormir. Mais si tu veilles puis tu pries, tu vas avoir la force pour tout échapper. On a besoin d'apprendre à prier. Puis prier. Pas juste apprendre sur des choses sur la prière. C'est apprendre à prier, c'est de le faire, de la prière. Vivre une vie de prière. Se lever le matin à penser en Dieu, puis en prendre un temps avec le Seigneur. Si je ne sais pas c'est quoi votre manière d'inclure la prière dans votre vie, bien pour moi, ça commence le matin. Première affaire que je fais bouillir l'eau, je me prends une tasse d'eau chaude avec du miel, je m'installe, puis là, je prie avec le Seigneur. Si tu veux être renforcé dans le Seigneur, il faut que tu prennes du temps. Puis si tu n'as pas le temps, lève-toi une heure avant. C'est ce que je fais. Tu n'as pas le choix. T'es-tu fou, tu le prennes. Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? « Seigneur, j'avais pas le temps de t'inclure dans mon horaire. J'avais pas le temps de prendre du temps avec toi. Aïe, je veux pas être là, moi, là, pour dire une affaire de même. » Dieu, ça devrait être le plus important dans votre vie. La personne la plus importante. Il dit, faut que t'aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Si c'est ça, tu vas tout mettre le reste de côté, puis tu vas vouloir dire, Seigneur, c'est juste toi que je veux. Puis là, tu vas le prendre le temps. Puis la TV va attendre, puis l'Internet va attendre, puis le téléphone cellulaire va attendre, puis même ta femme va attendre, puis ton mari va attendre. C'est le Seigneur qui est le premier, puis on le cherche. Puis c'est lui qui va nous le rendre. Amen.